carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue à Rouen, sur les traces de Corneille. Nous visitons dans quelques instants la maison natale de l'académicien célébrateur du Cid, en compagnie de Jacques Tanguy, intarissable sur la question, grand connaisseur de la région et de ses lieux historiques. Corneille disait « Le temps est un grand maître, il règle bien des choses ». Rendons hommage à ce temps en retournant 405 années après sa naissance du côté de cette maison pour nous faire redécouvrir le personnage et cet endroit qu'il gardera jusque un an avant sa mort.
Nous sommes dans une rue de Rouen qui s'appelle la rue de la Pie. Et si nous sommes dans cette rue, c'est parce qu'y est né un personnage célèbre. Il s'agit de Pierre Corneille. Pierre Corneille est né dans cette rue qui se situait sur la paroisse Saint-Sauveur, Saint-Sauveur du Marché. Car nous sommes ici à proximité immédiate d'une place célébrissime, la place du Vieux-Marché. Alors, célébrissime parce que c'est là qu'eut lieu le supplice de Jeanne d'Arc, bien sûr. Mais c'est bien après Jeanne d'Arc, à une époque où Jeanne d'Arc est quasiment oubliée, que naît ici Pierre Corneille, dans une maison qui avait appartenu à son grand-père. Il l'avait acheté en 1584. Son père y avait habité, donc c'est là qu'est né Pierre Corneille. Il y est resté avec son frère, en indivision d'ailleurs, jusqu'en 1562, époque où Thomas Corneille, le frère, petit frère de Pierre, a entraîné son frère à Paris. Ils se sont installés à Paris.
Est-ce qu'ils s'entendaient bien ?
Ah, ils s'entendent très bien, très très bien. On sait par exemple qu'ils avaient fait une trappe dans la maison de façon à pouvoir communiquer d'un étage à l'autre. Ils avaient gardé en indivision la maison des champs qu'ils avaient, une maison très intéressante que vous pourrez mettre un jour dans vos reportages. C'est une maison qui se trouve à Petit Couronne, en proximité de forêt, puisque le père, après le grand-père d'ailleurs, avait été maître particulier des eaux et forêts. Donc il s'était installé là au bord de la Seine, pas loin de la forêt du Rouvray, dont il avait la charge, le grand-père.
Monsieur Tanguy, pourriez-vous nous décrire la façade ?
Alors cette façade n'est pas la façade d'origine, malheureusement, puisqu'il y avait un règlement inepte qui date du milieu du 19e siècle qui visait à élargir les rues, permettre une circulation plus aisée. Donc on a démonté la façade d'origine, on la connaît par des gravures, qui certaines sont conservées d'ailleurs dans la maison, dans le musée Corneille, maison-musée Corneille. Alors cette façade donc a été restaurée complètement quand la ville de Rouen a pu racheter cette maison au début du XXe siècle. Alors, on a ici un rez-de-chaussée en pierre, comme c'est souvent le cas des maisons du XVIIe siècle, un rez-de-chaussée en pierre avec une porte. La porte ici n'est pas la porte d'origine, mais elle est copiée sur la porte d'origine, car la porte d'origine est conservée au musée départemental des Antiquités. Alors, une porte de bois, une belle porte de chêne, comme était aux maisons de cette époque. Au-dessus, on a ce que l'on appelle un pan de bois. Alors le terme de pan de bois, souvent on utilise le terme de colombage, mais le terme de pan de bois est plus adapté pour parler des maisons à plusieurs étages en ville. Ce qui est le cas de notre maison, puisque au-dessus de ce rez-de-chaussée en pierre, nous avons trois étages plus un comble. Alors il s'agit donc de poutres de bois croisées avec des petits motifs sculptés, et une partie de ce pan de bois est recouverte par des ardoises, ce qu'on appelle un essentage. Alors ce n'est pas une facilité, la maison était déjà au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, couverte d'ardoises. C'est une façon de protéger le pan de bois. Et donc nous avons là le pignon donc, de cette maison, mais cette maison faisait partie d'un ensemble. La maison s'étendait aussi derrière, il y avait un jardin avec un puits commun d'ailleurs aux deux maisons, celle de Pierre et celle de Thomas. Donc ce jardin a disparu lorsque l'on a créé une rue derrière qui porte maintenant d'ailleurs le nom de Thomas Corneille. Cette rue a été créée à une époque où le quartier a été profondément modifié. C'est au XVIIIe siècle, à l'époque de Louis XV. On voulait construire là un hôtel de ville extraordinaire. C'est le plus bel hôtel de ville de l'époque. Il figure dans la grande encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Cet hôtel de ville, nous le connaissons par des plans de l'architecte de France. Nous le connaissons par une maquette, une superbe maquette qui est au musée des Beaux-Arts de Rouen. Et malheureusement, l'hôtel n'a pas été construit. En dehors de quelques caves, qui se trouvent juste derrière, transformées en restaurant d'ailleurs, c'est assez charmant d'ailleurs, des quelques caves. Et normalement, la maison de Corneille devait disparaître totalement. Celle de Thomas a disparu, un passage vers cette nouvelle rue Thomas Corneille. Et un peu par miracle est restée cette maison. Alors cette maison Pierre Corneille l'avait vendu, il lui fallait de l'argent pour établir l'une de ses filles qui était établie dans un couvent qui était au nord de la ville, près de Saint-André, hors la ville, de nombreuses églises que comportait Rouen. Et donc, il lui fallait de l'argent pour établir donc cette fondation, en quelque sorte, une rente pour sa fille. Donc, c'est pour ça qu'il l'a vendue, un chirurgien d'ailleurs de l'époque. Et cette maison donc a eu plusieurs propriétaires, et en particulier, à la fin du XIXe siècle, c'était un cabaret. Et le seul souvenir de Corneille était une statue de Corneille, un buste de Corneille qui figurait sur la façade. Mais c'était un peu triste tout ça. Les cartes postales anciennes, les photos anciennes montrent la tristesse que présentait cette maison. Alors il y a eu une mobilisation. Et nous avons quelques petites brochures qui avaient été publiées à l'époque, une mobilisation d'un certain nombre de lettrés, d'intellectuels de Rouen qui se sont mobilisés pour permettre le rachat de cette maison. Et la ville de Rouen a pu la récupérer et donc a décidé d'installer le musée. Ben, je vous propose de rentrer peut-être dans le
musée.
Avec
plaisir.
Nous sommes au rez-de-chaussée donc de cette maison. Nous avons franchi cette porte assez massive, comme vous pouvez le voir, et nous sommes donc dans l'entrée, en quelque sorte, du musée. C'est là que nous accueillons les visiteurs du musée. Et une plaque rappelle d'ailleurs que cette maison a vu la naissance et une grande partie de l'existence de Pierre Corneille. Cette maison a été rachetée grâce à un comité. La ville en est devenue propriétaire en 1912. Et elle a été restaurée par un architecte assez connu de l'époque qui s'appelait Monsieur Georges Ruel. Et en 1917, un de ces intellectuels qui avait été à l'origine, en 1906, du comité de rachat de cette maison, il s'appelait Monsieur Édouard Mélite Pelet, a offert une bibliothèque cornélienne que nous allons découvrir dans les étages, puisque deux pièces ont été consacrées à cette bibliothèque, Édouard Mélite Pelet. Mélite, ça vous dit quelque chose? Vous connaissez les œuvres de Corneille? Eh bien, la première œuvre de Corneille, c'est Mélite. Vous voyez combien M. Pelet était passionné par Corneille, puisqu'il avait adjoint à son prénom, Édouard, le nom de Mélite, première pièce de Pierre Corneille. Malheureusement, les fenêtres ne sont pas d'origine. Hein. Toute cette façade a reculé de plus de 1 mètre par rapport à l'ancienne façade. Alors, donc c'est une reconstitution. Vous pourrez peut-être retrouver des cartes postales anciennes qui montrent l'état, triste état, de cette maison avant. Alors on a, Georges Ruel a imaginé, mais aussi il a travaillé à partir de documents, vous allez voir, il y en a quelques-uns qui sont conservés dans ce musée, qui montrent comment était cette maison à l'époque de grand écrivain.
Alors, où sommes-nous à présent, Monsieur Tanguy ?
Alors, nous sommes dans une salle du premier étage. Alors, lorsque la ville est devenue propriétaire de la maison, il a fallu la remeubler. Alors, pour la remeubler, on a trouvé des meubles de l'époque. Alors, ces meubles ne sont pas les meubles de Corneille, bien sûr. Ils avaient été dispersés pour la plupart. La cheminée non plus n'est pas, une belle cheminée monumentale, n'est pas une cheminée d'origine de la maison. C'est une cheminée qui a été copiée sur une cheminée d'un manoir qui se trouve dans notre campagne normande, le manoir du Fay, qui avait appartenu à Antoine Corneille, enfin plus exactement un membre de la famille Gouel, qui était la famille collatérale, en quelque sorte, de Pierre Corneille. Et il y a un tableau célèbre de Pierre Corneille, une des images de Pierre Corneille qui figure sur cette cheminée. Alors là, par contre, on a un dépôt du musée de Rouen qui montre une toile très intéressante parce que c'est un tableau de François Cyr. Ce tableau représente Corneille âgé, vers 1680, c'est-à-dire 8 ans avant sa mort, quelques années seulement avant sa mort.
Un rare tableau de la fin de sa vie.
Rare tableau intéressant. Et là, c'est vraiment Corneille qui est représenté ici. On le représente souvent plus jeune. C'est le cas sur les anciens billets de 100 francs. Un peu jeune, peut-être, pas connu ces billets de 100 francs, mais c'était une sorte d'affiche publicitaire pour la ville de Rouen, que ce portrait mais d'un Corneille plus jeune que vous le voyez ici. Là, on sent que l'âge commence à se faire sentir. Alors donc, on a quelques beaux meubles dans cette partie du musée. Un autre tableau ici, c'est Bernard le Bouvier de Fontenelle, qui était donc le neveu de Corneille, qui était né dans une maison un petit peu plus haut, et qui était académicien également.
Absolument,
bien sûr,
l'objet d'une prochaine
l'un
émission.
Des fondateurs d'ailleurs de l'Académie, en quelque sorte, où il représentait le côté scientifique des choses. Natif donc de Rouen, et vous savez que c'est quelqu'un qui a vécu très longtemps, puisqu'il était centenaire. C'est assez rare à cette époque-là. C'était le neveu. Alors il y a dans la descendance d'autres personnes, c'est le cas par exemple de Charlotte Corday, qui était une des descendantes de Pierre Corneille. Charlotte Corday, vous connaissez, qui avait assassiné Marat dans son bain. L'histoire est bien connue.
Où nous situons-nous à présent ?
Alors, nous nous situons dans une pièce qui est à l'arrière-plan, par rapport à la rue de la Pie. Donc, dans cette pièce, il y a surtout une maquette. Une belle maquette qui représente le quartier. Elle ne représente pas la rue de la Pie, on est juste à la limite, mais cette maquette représente la place du Vieux Marché, qui était la place voisine. Sur cette place du Vieux Marché se trouve une église. Et cette église est intéressante pour l'histoire de Corneille, parce que c'est dans cette église que Corneille a été baptisé. Et non seulement il a été baptisé, mais il en était paroissien près d'une cinquantaine d'années. Et même, il a été un peu avant de quitter Rouen, il en a été conseiller de la fabrique, en quelque sorte. Il en a été le responsable financier de cette église. Et nous avons conservé aux archives un certain nombre de documents signés de sa main qui sont des réceptions de ses comptes, par exemple, de la fabrique de l'église. Alors, cette église Saint-Vincent a quasiment complètement disparu. Il ne reste de cette église que les soubassements des murs qui ont été retrouvés dans les années 70, entre 72 et 1979, lorsqu'on a fait la nouvelle église Sainte-Jeanne d'Arc Saint-Vincent de la Place. On a retrouvé les vestiges. On avait au moins deux raisons de conserver ces vestiges. La première, c'est que cette église, c'est la dernière chose qu'a vue Jeanne d'Arc sur son bûcher avant de mourir. Et la deuxième raison, c'est justement Pierre Corneille, très attaché donc au passé cornélien. Cette église, qui est l'église du quartier. Nous sommes à 50 mètres, même pas 50 mètres de cette église, donc dans ce quartier. Voilà une belle maquette qui représente la place telle qu'elle était à cette époque. C'est un peu différent, bien sûr, de notre place actuelle, même si cette place a conservé quelques vieilles maisons, quelques très jolies maisons qui font le charme, bien sûr, du centre de notre ville de Rouen. Deuxième étage, maintenant, nous avons là, pour nous accueillir, un buste d'un personnage, Édouard Mélite Pelet. Donc ce personnage, ce Rouennais, était un bibliophile passionné, et en particulier un amoureux de Corneille. Tellement amoureux d'ailleurs, comme vous le voyez, il a ajouté Mélite comme deuxième prénom, je vous l'expliquais tout à l'heure. Et dans sa maison de la rue de Crône, une rue qui est juste à côté, il avait entassé une collection extraordinaire de documents sur Corneille, faisant un véritable musée. Et donc il a décidé de l'offrir à la ville de Rouen. Et ça permet d'avoir dans ce musée une bibliothèque cornélienne que nous allons découvrir dans la pièce suivante.
Alors nous y voyons une grande cheminée, une belle hauteur sous plafond.
Oui, due à la reconstruction, bien sûr, mais surtout on a quelques belles vitrines dans lesquelles se trouvent les collections léguées par Pelet, donc à la ville de Rouen. Et ce sont des œuvres, généralement les originales, les éditions originales.
Très très rares.
De toutes. Ah oui, des livres très très rares, c'est très recherché. Ces livres donc sont souvent, pour la plupart, des éditions originales des œuvres de Pierre Corneille.
Ah oui, vous avez des trésors, effectivement, c'est absolument incroyable.
Alors, vous avez non seulement les œuvres de Corneille, mais vous avez aussi beaucoup de livres de littérature sur Corneille, sur son temps, sur son histoire, sur les façons dont on a célébré Corneille à Rouen, car Rouen a été toujours une grande célébrité rouennaise. C'est pour ça qu'on a donné son nom à la fois à une statue, à un pont, à un quai aussi de la ville. Vous voyez, on a toujours honoré Corneille. Donc nous avons ici quelques-uns de ses ouvrages mettant en valeur le personnage de Corneille, mais aussi quelques dessins, quelques statuettes, quelques pièces. En particulier ici, une reproduction d'un tableau qui avait été fait, alors là c'est une reproduction réduite, qui avait été fait par un peintre du 19e siècle qui s'appelait Cour. C'était le directeur de l'école des beaux-arts de Rouen. Et ce cours a été reçu à l'Académie, pas la vôtre, à l'Académie de Rouen, l'Académie des lettres et des belles lettres, arts et sciences de Rouen. Fondée en 1744, cette académie existe encore de nos jours, est encore assez dynamique. Alors Joseph Court, comme réception en quelque sorte, n'a pas fait de discours, il a fait un tableau, comme faisaient la plupart des peintres quand ils étaient reçus. Et il a représenté un tableau d'ailleurs tout à fait intéressant, bon, je n'ai pas le temps de vous le détailler, mais c'est Corneille félicité par le grand Condé. Donc ça se situe sur la scène de l'hôtel de Bourgogne à Paris où étaient jouées les œuvres de Corneille. Tableau politique aussi, puisque vous savez, Corneille a dû toute sa vie naviguer en quelque sorte entre les puissants. Il avait besoin de l'aide de ces puissants. Il a été aidé par Mazarin, mais à la mort de Mazarin, on lui supprime, comme tous les artistes d'ailleurs, on lui supprime ses rentes, ses subsides qu'il recevait, sa pension qu'il recevait. Ensuite, eh bien, il va être obligé de courir un petit peu après la reconnaissance. Il va donc quand même reconnu, très reconnu, mais il va connaître aussi des moments difficiles parce que il va par exemple être soutenu par Fouquet. Le problème, c'est que quand Fouquet va être disgracié, eh bien, il va le suivre un petit peu dans la disgrâce. C'est très difficile à l'époque
et
d'être...
Et il va écrire également pour d'autres dramaturges de l'époque, dans Molière.
Ah, alors ça, ça fait partie des légendes. Enfin, des légendes. C'est un peu le mythe, si vous voulez. J'en ai souvent parlé quand je fais des conférences, les gens me disent « Donc oui, c'est lui qui écrivait les pièces de Molière. » Non. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas, vraisemblablement, que Jean-Baptiste Poquelin écrivait lui-même ses pièces. Ce qui n'empêche pas qu'il y ait eu quand même peut-être une certaine influence de Corneille sur Molière. Ne serait-ce que parce que Molière avait créé sa Divine Comédie à Rouen. Il a commencé sa carrière, Jean-Baptiste Poquelin est venu à Rouen. Il s'est installé, elle a installé sa troupe dans un jeu de paume qui s'appelait le jeu de paume des Braques, qui se trouvait un petit peu plus bas ici. Alors, nous sommes là en 1643. Je pense que Corneille et son frère ont dû quelquefois descendre la rue qui se trouve au bout ici, qui s'appelle la rue du Vieux-Palais, pour aller au Braque. Mais quand il est revenu en 1658, quand Molière est revenu après avoir fait son tour de France, il est revenu, dernier séjour avant de passer à la consécration parisienne, Molière s'est réinstallé au Braque. Et on sait qu'ils se sont fréquentés. Il est très vraisemblable que Molière soit venu ici, peut-être même dans la pièce où nous sommes, pourquoi pas. On sait en particulier que les frères Corneille ont assidûment fréquenté la troupe de Molière, à tel point d'ailleurs qu'il y a eu toute une histoire. Et cette histoire, elle est bien connue. Vous vous souvenez de cette phrase ? Marquise, si mes traits vous paraissent un peu vieux, n'oubliez pas qu'à mon âge, vous ne serez guère mieux. C'est un peu vache, hein, c'est un peu rosse peut-être comme expression. Quelle était cette marquise ? Mais c'était pas une vraie marquise, c'était une actrice. Une actrice donc de la troupe de Molière, l'épouse du Parc, qui était une fort belle femme d'ailleurs. Et je dois dire que notre Corneille, qui avait quand même 50 ans à l'époque, n'oublions pas, plus de 50 ans, Corneille est tombé amoureux de la marquise en question. Et le pire, c'est que son frère aussi, mais a priori, ça n'a pas altéré leur relation. Et ils ont fait une cour assidue, et vaine d'ailleurs, à la belle-fille qui est partie, qui a quitté d'ailleurs la troupe de Molière ensuite et qui est passée dans Racine. C'est elle qui a créé par exemple le rôle d'Andromaque. Donc la fameuse marquise, vous voyez, peut-être que nous avons ici quelques rencontres entre Corneille et Molière. Molière a joué des pièces de Corneille bien sûr, mais je ne pense pas que Corneille ait écrit beaucoup de pièces pour lui. Je pense que le talent de Jean-Baptiste Poquelin était suffisant pour qu'il écrive lui-même ses pièces. Mais vous voyez, ça fait partie un petit peu de ces mythes de l'histoire, de ces choses qu'on raconte. Je serais incapable de vous prouver ni que ce soit vrai, ni que ce soit faux.
Est-ce que dans cette pièce, des œuvres ont été écrites ?
Ah oui, oui, oui. Une bonne partie des œuvres, puisque jusqu'en 1660, Corneille a vécu à travailler ici. Il a écrit Mélite, première pièce, qu'il a eu le culot d'aller présenter à Paris, qui était un succès énorme pour l'époque. Et puis ensuite, ça s'est découlé, toutes les pièces qu'il a écrites ici, c'est-à-dire la plus grande partie peut-être de son répertoire, a été écrite ici. Parce qu'ensuite, il a abandonné le théâtre. Et il s'est consacré à des œuvres religieuses, d'aucuns diraient peut-être de bondieuserie d'ailleurs, ce qui explique aussi peut-être aussi sa défaveur aussi qu'il a eue par rapport aux grands. Mais il avait déjà quitté à cette époque cette rue de la Pie. Et donc, disons que l'essentiel de son œuvre, l'immortel, c'est ici qu'elle a été écrite, et en particulier le Cid, qui est une pièce imminemment rouennaise, le Cid. Ah, vous allez me dire, non, ça se passe à Séville. Mais si je vous dis cette obscure clarté qui tombe des étoiles, soudain avec le flux nous fait voir 30 voiles, longs de s'enfle dessous, et d'un commun effort, les morts et la mer montent jusque au port. Corneille est supposé nous décrire Séville, sur le doigt de l'Alquivir. Je ne sais pas si vous êtes allé à Séville, mais si vous allez à Séville, vous verrez que la marée ne remonte pas le Guadalquivir. Ce que Corneille nous décrit, c'est Rouen, c'est la remontée de cette vague qu'on appelait le Mascaret, qui aux grandes marées remontait la Seine à toute vitesse. Et Rouen est très présent, d'autres choses, je pourrais vous le montrer, dans les œuvres de Corneille. Et pour cause, Corneille a écrit beaucoup de ses œuvres ici. Peut-être pas dans cette pièce, peut-être celle d'en dessous, je ne sais pas, ce n'est pas important.
C'est beaucoup inspiré de sa vie, de son pays,
bien sûr,
de sa
vous
ville.
Savez, Corneille, par exemple, décrit beaucoup de scènes juridiques, en quelque sorte. Regardez le Cid, il y a un côté tout à fait juridique dans le Cid. Et pour cause, Corneille était avocat. Il était avocat, très jeune d'ailleurs, à 24 ans, très très jeune. Ensuite, il a vendu, il a eu des charges d'avocat auprès d'une juridiction qui s'appelle la Table de Marne. Voilà, une autre promenade qu'on pourrait faire dans Rouen, c'est dans ce qu'on appelle maintenant le palais de justice, qui était le palais du Parlement. Il y a encore cette table de marbre autour duquel c'est toujours émouvant quand je vais là-bas, d'imaginer, de faire imaginer à mes visiteurs Corneille assis autour de cette table de marbre. Alors bon, les gens disent qu'il n'était pas un très bon avocat, qu'il n'était pas un très bon orateur. On le tient de son propre frère qui laisse entendre qu'il n'était pas un très bon orateur. Nous n'avons pratiquement aucune, nous n'avons pas de plaidoirie de lui et pratiquement aucun document sur son activité professionnelle. C'était surtout un amoureux du théâtre.
Alors, où sommes-nous à présent, Monsieur Tanguy ?
Eh bien, nous sommes dans une pièce qui a été consacrée au Cid. Ah oui, il faut en parler de
la
cette pièce.
Œuvre.
La grande œuvre de Pierre Corneille, le Cid. C'est une pièce mondialement connue, le Cid. Mes visiteurs m'en parlent à chaque fois. Dès que je prononce le mot de Corneille, c'est la pièce qui est citée immédiatement. Alors, nous avons ici quelques documents qui montrent le Cid. Vous savez que le Cid était à l'origine d'une querelle, vaste querelle entre, disons, les anciens et les modernes. Corneille avait dans le Cid le plus beau classicisme qui soit, unité de temps, unité de lieu, unité d'action. Et bon, ça n'était pas du goût de certains personnages bien en cours de l'époque. Alors, c'était l'objet d'une querelle, mais cette querelle, eh bien, elle s'est terminée avec le succès de Corneille, et on joue toujours le Cid. Et nous avons ici quelques documents photographiques qui montrent les grands acteurs. Alors, bien sûr, il y a Albert Lambert, le grand Albert Lambert, très grand interprète du Cid.
Ah, Gérard Philippe.
Bien sûr, et j'allais y arriver, effectivement. Albert Lambert, c'est un peu le Gérard Philippe du début du XXe siècle. C'était quelqu'un de la région, hein, la Bouille, hein, c'est un très joli coin de la vallée de la Seine. Et puis, je crois que le Cid, c'est le souvenir immortel de Gérard Philippe, qui a été certainement le plus grand acteur à jouer le Cid. On le voit ici dans la fameuse scène où son père lui donne son épée pour venger son honneur. Alors vous avez d'autres acteurs, vous savez que c'est une pièce qui a été jouée par tous les grands acteurs, on peut dire Munesulli, on a donc tous les grands théâtres qui ont
Fanny
joué.
Fanny Ardant
Laurent Terzieff, enfin vous voyez, c'est vraiment une pièce incontournable du répertoire.
Alors, pour terminer cette émission, Monsieur Tanguy, est-ce que vous pourriez nous faire partager l'œuvre que vous préférez ou un aspect de Corneille que vous appréciez particulièrement, ou un dernier mot personnel?
Personnellement, c'est le Cid.
Après tant d'années connaître et à travailler
ça reste
sur
le Cid. Quand j'ai l'occasion de voir jouer le Cid, j'ai toujours la même émotion. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand j'étais jeune, très jeune, j'étais gamin, au collège, eh bien, je suis allé voir au TNP Jean Villard jouer le Cid. C'est la première fois que j'assistais à une scène, je m'en souviens encore. J'ai eu la grande émotion il y a quelque temps, un vieux monsieur qui suivait une de mes conférences m'a dit « Vous vous souvenez du Don Diego avec Jean Villard ?» Ah, j'ai dit « Oui », mais il me dit « C'était moi ». C'est une très grande émotion. Voilà, donc il était déjà âgé à l'époque, il était encore plus âgé quand je l'ai rencontré, il est décédé maintenant d'ailleurs. C'est toujours une très grande émotion, mais j'aime me promener sur les pas de Corneille dans Rouen. Il y a beaucoup de souvenirs, il y a le lycée Corneille, mais le lycée Corneille c'était le collège des jésuites de Rouen, il a fait ses études. Il y a ce palais de justice où il a plaidé, il y a ces petites rues où il s'est promené, vous voyez. Corneille est encore très présent dans Rouen.
Nous sommes partis à la rencontre de Corneille à Rouen, en compagnie de Jacques Tanguy, grand connaisseur de la région et de ses lieux historiques. Nous avons parcouru cette demeure et nous espérons vous avoir fait redécouvrir le célèbre dramaturge, membre de l'Académie française.